Donc bonsoir à tous et bravo d'être là pour cette sixième étape de notre retraite, même si tout le monde n'a pas pu tout suivre. Voilà, en tout cas, on continue ce chemin avec le Notre Père et on arrive donc aux deux dernières demandes du Notre Père. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors, hier, on a parlé du pardon. Le pardon, on peut dire, ça concerne le passé. C'est, il faut pardonner tout ce qui nous est arrivé. Avant-hier, c'était le pain. Le pain, c'est le présent. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et aujourd'hui, eh bien, la tentation, c'est ce qui peut nous arriver dans l'avenir. Et vous voyez que notre Père, en fait, il embrasse tous les temps, passé, présent, à venir. C'est la prière voilà, qui nous met en lien avec Dieu dans toutes les différentes dimensions de notre vie. Alors, quel est le sens, comment comprendre cette demande? C'est ce qu'on va essayer de chercher ce soir. Et d'abord, entrons dans son sens littéral, si on veut faire une traduction plus littérale de la demande dans saint Matthieu. C'est « ne nous introduis pas dans l'épreuve ou la tentation qui a conduit à ce qu'on ait pendant longtemps, pendant 50 ans, une traduction liturgique qui disait « soumettre, ne nous soumets pas à la tentation ». Mais voilà, on l'a changé depuis quelques années et en fait c'est bien parce que « soumettre » était quand même un durcissement vraiment de cette formule, comme si c'est Dieu qui soumettait à la tentation, on va en reparler. Alors, si on essaye de remonter au substrat hébreu ou araméen du texte, on peut essayer de le comprendre comme ne pas nous faire rentrer dans la tentation, ne pas nous introduire, ou fait que nous n'entrions pas dans la tentation, qui peut être plus logique et cohérent avec le message de l'Évangile, hein, fait que nous n'entrions pas dans la tentation, puisque Jésus dit à ses disciples, priez. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Donc il leur demande de prier pour cela, voilà, pour qu'ils n'entrent pas dans la tentation. Et pour ça, on a besoin de l'aide de Dieu. Et ensuite, évidemment, pour ne pas succomber à cette tentation, parce qu'il sait qu'on risque de ne pas résister si nous sommes plongés dans la tentation. Voilà, donc on pourrait en fait traduire cette demande, fait que nous n'entrions pas en tentation. Voilà, permet que voilà, nous ne soyons pas entraînés, que nous n'entrions pas dans cette expérience de la tentation. Alors, on peut l'interpréter de plusieurs manières encore. On peut dire, dans une humilité lucide, hein, finalement, nous prions Dieu de nous éviter une épreuve à laquelle notre foi ne survivrait pas. Finalement, il y a des épreuves qui peuvent être trop lourdes dans notre vie, on a peur de cette épreuve et donc on veut l'éviter. Ou bien, parce qu'on sait que les épreuves viendront, de toute façon, il y aura des épreuves, on peut dire, eh bien, voilà, ne me laisse pas entrer finalement dans le jeu de la tentation, de manière irréversible dans cette tentation où je vais me perdre, et donc permets-moi d'être fort dans l'épreuve. On pourrait traduire aussi, alors, préserve-nous de faire le premier pas dans la tentation. Voilà. Parce que face à la tentation, quelquefois on dit voilà, j'y céderai pas, mais je vais tout de même aller voir un peu plus près, essayer un petit peu. Et puis en fait, c'est le premier pas qui est déjà un péché souvent en lui-même. On se laisse finalement attirer et c'est un péché d'orgueil souvent parce qu'on se croit plus fort finalement que le tentateur et on risque ensuite de succomber. Et les pièges du tentateur, voilà, ils connaissent notre faiblesse. Il sait très bien comment, par quel biais il peut nous tenter. À ce moment-là aussi, le pouvoir de l'imagination peut être dangereux. On se représente intérieurement la situation de tentation. On se remémore une expérience passée, on se dit qu'il y a du plaisir, voilà, à prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Ou bien à manger un carré de chocolat, etc., céder à telle autre tentation. Et en fait, eh bien voilà, dès que l'imagination s'en mêle, on se laisse facilement entraîner. Il y a le désir qui se réveille. Et souvent, dans ces situations-là, en fait, le piège du tentateur est assez subtil parce que il consiste en fait à nous faire déposer les armes, finalement à ne pas combattre. Satan sait alors qu'il nous mènera jusqu'au bout. C'est pourquoi, en fait, vraiment, les apôtres, pardon, le Christ demande aux apôtres de prier Dieu pour les préserver de faire ce premier pas vers la tentation. Ne nous fais pas entrer en tentation, ne nous introduis pas dans la tentation, priez pour ne pas entrer en tentation. Voilà. Et voilà, évidemment, ils ne vont pas être capables de cette prière, ils vont dormir. Et puis, voilà, Pierre va le renier encore, voilà, va faire encore pire. Donc c'est au moment où la tentation survient qu'il faut se tourner vers Dieu et lui demander vraiment, voilà, de ne pas nous laisser pénétrer dans ce jeu-là. Alors, il y a un problème de traduction dans... Déjà, on voit il y a plusieurs problèmes de traduction, mais donc il y en a un sur la traduction de la forme verbale. Est-ce qu'il faut dire « ne nous introduit pas »,« ne nous fait pas entrer »,« permet que nous n'entrions pas », etc. Et puis après, il y a un problème de traduction sur le mot « tentation » lui-même. Parce qu'en fait, le mot grec peut se traduire aussi bien « tentation » qu'épreuve. Et il a d'abord le sens d'épreuve et principalement dans le Nouveau Testament. Et alors, je vous ai mis un certain nombre de passages du Nouveau Testament où ce mot peirasmos, donc qui est le mot de tentation dans le Nouveau Testament, dans le Notre Père, est utilisé au sens d'épreuve. Donc, dans le récit de la Passion de Saint Luc, Jésus qui dit au moment du dernier repas à ses disciples, vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Dans les Actes des Apôtres, Saint Paul, aux anciens de la ville d'Éphèse, il leur fait ses adieux et il leur dit « J'ai servi le Seigneur en toute humilité dans les larmes et les épreuves que m'ont valu les complots des Juifs. » Donc c'est très clairement, à chaque fois, c'est vraiment, on voit bien que c'est le sens du mot, c'est « épreuve ». 1 Corinthiens 10 « L'épreuve qui vous a atteint n'a pas dépassé la mesure humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. » Galates chapitre 4. « Vous le savez, c'est par suite d'une maladie que je vous ai annoncé l'Évangile pour la première fois. Et l'épreuve qui était pour vous ce corps malade, vous ne l'avez pas repoussé avec dégoût. Mais vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus lui-même. » Voilà, Saint Paul n'était pas en bonne forme à ce moment-là. Alors, il n'était peut-être pas défiguré comme Jésus dans la Passion, puisqu'on vient de méditer aussi sur ce visage défiguré de Jésus. Mais il pouvait être un peu un lieu de dégoût. Ensuite, la lettre de Jacques. Alors, je reviendrai à plusieurs de ces textes après. « Considérez comme une joie extrême, mes frères, de buter sur toutes sortes d'épreuves. » On ne dit pas toujours ça hein, dans la vie, quand on bute sur des épreuves. Ce n'est pas toujours la joie. « Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car sa valeur, une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui aiment Dieu. » Dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise « ma tentation vient de Dieu ». Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal et lui-même ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit, puis la convoitise conçoit et enfante le péché, et le péché arrivé à son terme engendre la mort. Voilà, c'est la catastrophe. Hein. Là, vous voyez, ça va de mal en pis. Et puis dans la première épître de Pierre, « Ainsi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Bien-aimés, ne trouvez pas étrange le brasier allumé parmi vous pour vous mettre à l'épreuve. Ce qui vous arrive n'a rien d'étrange. » Donc Saint-Pierre indique que voilà, les épreuves font partie de la vie. Il y a des épreuves qui nous arrivent. On ne peut pas les éviter. Et donc, il y a une illusion à croire que notre vie pourrait être dispensée de toute épreuve, ou quand que dans l'épreuve, nous pourrions éviter d'être tentés. Finalement, l'épreuve est un moment où notre foi est clarifiée, vérifiée, authentifiée, fortifiée. Hein ? Jacques 1,12, sa valeur une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui aiment Dieu. Donc jusqu'où nous aimons Dieu ? C'est ça la question. Est-ce que nous sommes capables encore de l'aimer lorsque la vie nous éprouve ? L'épreuve de la tentation, elle fait partie du pèlerinage vers la terre promise. Dieu nous appelle à quitter nos sécurités, à cheminer avec lui. Dieu ne nous assure pas donc contre les épreuves, mais il nous promet son aide pour sortir. Et il nous promet le moyen de nous aider à sortir de l'épreuve. Donc là, c'est la première aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13, que je vous ai cité. « Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. » Avec l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir et la force de le supporter. Donc la vie nous invite en fait à tenir dans les épreuves avec Jésus, à savoir que Jésus est là auprès de nous, quelles que soient les épreuves dans lesquelles nous sommes. Donc on pourrait aussi traduire finalement la demande du Notre Père, « Ne me fais pas entrer dans une épreuve trop dure pour moi. » Ou bien « Donne-moi ta force lorsque l'épreuve, tentation s'approche. » Alors, dans l'Ancien Testament, il y a une grande épreuve qui est celle d'Abraham, au moment où Dieu lui demande de sacrifier son fils Isaac. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Abraham !» Celui-ci répondit « Me voici. » Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Voilà, donc c'est là où vraiment Abraham va montrer à Dieu sa fidélité. Il va aller jusqu'au bout de... d'une fidélité, d'une obéissance à Dieu, d'une foi, confiance que Dieu peut faire l'impossible et Dieu lui rendra son fils. Voilà, cet épisode assez dramatique a été relu par les chrétiens ensuite comme une première annonce de la mort du fils unique. Donc on voit que en fait la tentation est preuve. Ça va bien plus loin que la simple attirance des choses défendues, comme on pourrait le prendre au premier sens du mot tentation. Mais c'est l'épreuve, finalement, quand on est touché par le malheur, quand on est aux proies à des forces hostiles à Dieu, où on risque de perdre sa foi, sa confiance en Dieu. Le moment où voilà, notre foi peut être éprouvée, vraiment. Donc c'est l'épreuve de penser que Dieu n'est pas fidèle, qu'il n'est pas bienveillant, qu'il n'est pas le Père vraiment auquel nous pouvons nous confier, mais qu'il nous a abandonnés. Donc il faut demander que nous soient évitées les épreuves trop lourdes, trop dures pour nous, et que nous comprenions, que nous découvrions que le Seigneur est présent à travers ces moments qui nous éprouvent. Je vous ai mis cette phrase de Simone Veil dans son commentaire du Notre Père. la seule épreuve pour l'homme, c'est d'être abandonné à lui-même au contact du mal. Donc c'est vraiment, voilà, nous pouvons demander à Dieu, Seigneur, ne m'abandonne pas. Voilà, lorsque je suis face au mal, j'ai confiance en toi pour cela. Un autre danger qui peut traverser nos pensées, ça serait que Dieu nous envoie des épreuves ou que Dieu veut nous tenter, que Dieu veut nous solliciter vers le mal. La Bible est très claire, c'est toujours Satan qui tente, jamais Dieu. Vous avez la citation de Saint Jacques, voilà, dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise « ma tentation vient de Dieu ». Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal et lui-même ne tente personne. Donc le trouble intérieur, les mauvaises pensées, les attirances, le désespoir, hein, quelquefois, eh bien, ils viennent voilà, de notre faiblesse, de notre convoitise, de notre fragilité, de notre péché. Voilà, je vous ai mis aussi un texte du Siracide, parce que c'est aussi présent dans l'Ancien Testament, cette idée, hein, ne dis pas, c'est le Seigneur qui m'a dévoyé, car il ne fait pas ce qu'il a en horreur. Ne dis pas, c'est lui qui m'a égaré, car il n'a que faire du pécheur. Donc c'est pas le, voilà, ça ne peut pas être Dieu qui crée la situation de pécheur, de péché. Que le Tertullien, père de l'Église, donc disait que le ciel nous préserve de croire que Dieu puisse nous tenter. Donc c'est toujours Satan qui tente, hein, et voilà, et non pas Dieu. C'est clair dans les tentations de Jésus au désert. Hein. Finalement Jacques éprouve le besoin de préciser dans son épître que ce n'est pas Dieu qui nous tente, c'est que sans doute déjà à son époque, il y avait des gens qui pensaient que voilà, Dieu envoyait des tentations et finalement en faisait une excuse du péché, de leur péché, en disant finalement, ben voilà, ça vient de Dieu, donc je me suis laissé prendre et ils s'enferraient dans leur péché, finalement, voilà, en dévoyant le sens de cette prière. Donc, voilà, malgré le double sens, effectivement, du mot « tentation » et « épreuve », il faut bien, tout de même, et on le fait, hein, traduire le mot « dans le Notre Père » par « tentation ». Alors, Matthieu et Luc maintiennent cette formule qui n'est pas très simple, vous voyez, à travers le sens complexe de cette formule, hein, c'est sans doute parce que vraiment on a le désir d'être libéré. Et donc Matthieu, alors Luc ne le fait pas, mais Matthieu ajoute à la fin de cette première, de cette demande, cette ultime demande, « mais délivre-nous du mal ». Et donc le sens général, ça pourrait être plutôt que de nous introduire dans la tentation, délivre-nous, libère-nous du mal, c'est-à-dire du mauvais, du tentateur. Délivre-nous des griffes du mal. En fait, on peut traduire mal ou mauvais ici, délivre-nous du mal. C'est le même mot. Donc vous avez par exemple Matthieu 5, 37, que votre parole soit oui si c'est un oui, non si c'est un non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Donc à nouveau un débat de traduction, est-ce qu'il faudrait traduire notre Père par délivre-nous du mal ou délivre-nous du mauvais, de Satan, du tentateur. Alors, bien sûr, voilà, il y a un rival, un ennemi, mais en fait, Jésus nous parle plutôt du pouvoir du mal, de la puissance du mal, plutôt que de la personne d'un tentateur dans cette demande. c'est de dire que le mal, il n'est pas seulement en nous, mais c'est aussi voilà, le mal qui dépasse l'homme et dans lequel, devant lequel on est fragile. Ce mal que néanmoins le Seigneur a vaincu. Hein. Voilà, en l'évangile de Jean, maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et ce mal qu'il faut bien à certains moments effectivement personnaliser. On trouve aussi l'expression alors dans Saint Paul, la deuxième aux Corinthiens, « Et même si l'évangile que nous annonçons reste voilé, il n'est voilé que pour ceux qui vont à leur perte, pour les incrédules dont l'intelligence a été aveuglée par le Dieu mauvais de ce monde. Celui-ci les empêche de voir clairement dans la splendeur de l'évangile la gloire du Christ qui est l'image du Dieu. » Et Saint Paul utilise cette image, cette expression de Dieu mauvais de ce monde. Donc il personnifie cet ennemi, ce Satan qui nous aveugle ici, mais qui est vraiment la puissance du mal à l'œuvre au milieu des hommes. Et en fait, ce que le Notre Père nous permet de nous rendre compte, eh bien, c'est que si nous sommes livrés à nous-mêmes, nous ne sommes pas de taille dans cet affrontement. Voilà. On sait qu'il y a des forces puissantes dans le monde qui agissent contre Dieu. Ces forces peuvent être parfois des forces, enfin, qui peuvent être aujourd'hui des forces politiques, économiques, des forces qui influencent les mentalités, des forces culturelles, et finalement que dans ce combat, eh bien, nous avons besoin du Seigneur et il nous reste toujours la prière confiante que nous adressons à Dieu de nous libérer du mal. Et donc le Notre Père, eh bien, à la fin, se termine par une attitude d'humilité. Voilà. Je sais que par moi-même, je ne suis pas assez fort et j'ai besoin sans cesse de me tourner vers Dieu pour lui demander de ne pas succomber dans les tentations et dans les épreuves. Pour évoquer cela, je vous ai mis une petite citation de Raissa Maritain dans son livre sur le Notre Père. Elle dit « La sixième demande est la prière de notre faiblesse, la prière d'un être qui se sait faible et qui prie pour ne l'être pas aujourd'hui dans les heures dangereuses qui seront celles de ce pauvre aujourd'hui. » Elle nous met en garde contre la présomption. C'est une prière d'humilité, et l'humilité ne sait pas où s'arrêter, bien qu'avec cela il ne soit pas de vraie humilité qui ne s'accompagne de magnanimité, donc de générosité, de grandeur d'âme aussi. Hein. Ce n'est pas seulement se rabaisser, mais c'est aussi manifester sa générosité. Mais présomption, c'est le fait d'être présomptueux, d'être orgueilleux, de présumer de ses forces, de penser que on est assez fort par soi-même. Il y a une sorte de présomption qui n'est qu'apparente parce qu'elle est seulement un naïf élan d'amour et de confiance. C'est ainsi que le psalmiste demande à être éprouvé. Éprouve-moi, Seigneur, scrute-moi, passe au feu mes reins et mon cœur. Mais la vraie présomption coûte cher. Pauvre Pierre, si tous viennent à tomber à cause de toi, moi je ne tomberai jamais. Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Donc ça, c'est ce que dit Saint Pierre. Dans chapitre 26 de saint Matthieu, qu'on entendra dimanche. À l'heure du suprême combat, il faut prier pour ne pas entrer en tentation. La tentation risquerait trop de passer nos faibles forces. Voilà, puisque effectivement, Pierre s'est bien trompé sur ses forces. Donc la conclusion du Notre Père, de certaine manière, vous voyez, elle est assez abrupte. Ça se termine par le mal. Le dernier mot, c'est le mal. Voilà. Dont nous attendons la libération. Mais c'est aussi peut-être le réalisme de la prière chrétienne, que le mal existe dans le monde, que le péché existe en nous, et que nous attendons la rédemption, le salut, la délivrance. Nous attendons d'être libérés du poids du mal, et on peut vraiment l'entendre dans toutes ses dimensions, à la fois le mal moral, mais aussi le mal physique, le mal inexplicable, le mal qui tombe, le malheur qui tombe sur nous sans raison, qui abat des vies humaines. Finalement, c'est la supplication de toute la création qui attend la libération. Comme le dit saint Paul dans la lettre aux Romains, la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore, et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est pas plus espérer ce que l'on voit. Comment peut-on l'espérer encore ? Donc, vous voyez, la prière de notre Père, c'est vraiment la prière de l'espérance, finalement, à la fin. Elle nous ouvre à l'espérance d'être libérés du mal. Et de tout mal, et que la création puisse connaître, et que tous les êtres puissent connaître. Alors, voilà, je ne demande pas cette libération donc seulement pour moi-même, alors je prie pour moi-même, délivre-nous du mal, de cette influence du mauvais dans ma vie, de tout ce qui peut m'éloigner de toi, de tout ce qui peut me faire du mal et me désorienter, mais aussi je peux prier vraiment en communion à ce moment-là avec toute la création, tous ceux qui souffrent sur notre terre. Rail Samaritain commente aussi cela en disant « Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et d'abord, de tout péché d'abord, mais aussi de la foudre, de la tempête, des tremblements de terre, de la peste, de la famine et de la guerre, de la mort éternelle. Délivre-nous de cette douleur sans pareille, voire souffrir sans remède ce que nous aimons. Délivre-nous des ténèbres spirituelles. Délivre-nous de l'angoisse, qui est sans doute l'un des états dont le Saint-Esprit a une particulière pitié. Délivre-nous de l'enfer terrestre, de la misère. Délivre-nous des supplices infligés par les hommes ou par les plus cruelles maladies. » Donc cette demande, c'est vraiment la demande universelle de tous ceux qui souffrent, de ceux qui sont perdus, de tous ceux qui espèrent une vie meilleure. Donc, vous voyez, c'est une espérance qui concerne notre temps, mais finalement qui concerne aussi la fin des temps. La réalisation du salut. Et finalement, Rail Samaritain dit que ça rejoint, ainsi la fin rejoint le commencement du Notre Père. Cette dernière demande du Pater rejoint, pour ainsi dire, les trois premières demandes. Elle comporte comme elle une ultime signification eschatologique, donc, qui concerne la fin des temps, l'eschaton, c'est le dernier en grec, ce qui vient en dernier. Comme elle, elle ne sera pleinement accomplie qu'au-delà de ce monde et de son histoire. Donc la libération du mal, elle sera pleinement accomplie, après, à la fin de l'histoire. C'est contre le mal dans toute son ampleur et sous toutes ses formes qu'elle élève sa plainte, et contre la racine du mal, contre le mal à tous les sens du mot, dont la déroute finale sera le triomphe de la sainteté de Dieu, donc que ton nom soit sanctifié, du royaume de Dieu, le règne sera venu, et de la volonté de Dieu, la volonté de Dieu se fera sur la terre comme au ciel. Donc voilà, cette dernière demande montre finalement l'unité du Notre Père. Ce que nous voulons, c'est que l'Évangile accomplisse sa route, que le projet de salut de Dieu se réalise, et nous le demandons instamment à Dieu en nous tournant vers lui et puis en accueillant ce qu'il peut, ce dont nous avons besoin. Donc, pour conclure sur l'ensemble de cette méditation du Notre Père, ce que j'essaie de faire cette semaine, c'est en fait de relier le Notre Père à la Bible, vraiment de le lire avec l'ensemble de la parole de Dieu, c'est-à-dire à tout ce que nous savons, tout ce que Dieu nous a dit de son alliance avec nous. Et en fait, il faudrait prier le Notre Père, évidemment, en pensant au sens profond de chaque demande. Voilà ce qu'on a essayé de faire cette semaine, en s'arrêtant sur chaque demande. Alors, évidemment, quand on le récite personnellement ou en communauté, c'est difficile de le faire à chaque fois. On ne peut pas s'arrêter et méditer sur chaque demande, mais c'est important, vous voyez, qu'on ait pris le temps de comprendre ce que signifie le Notre Père, ce qu'il nous dit, et puis c'est bien à certains moments de, voilà, de prendre plus de temps pour méditer cette prière, pour nous arrêter de temps en temps sur telle ou telle demande. Et donc, voilà, ne pas en faire seulement une prière routinière, mais une prière qui vraiment nous peut nous accompagner. C'est ce à quoi nous invite aussi Raissa Maritain dans la conclusion de son livre. Nous n'avons pas d'autre guide vers la vie éternelle, la vie divine, la béatitude, que la vie du Christ, l'enseignement du Christ, la passion du Christ, la prière du Christ, l'imitation du Christ et la voie de l'amour et de la sainteté. Ainsi, le Notre Père, à nous enseigné par le Christ, est la plus vraie des prières, la plus complètement vraie, juste et agréable à Dieu, celle dont la flamme doit toujours brûler en nous. Voilà, je trouve que c'est une belle formule. Voilà, la plus vraie, la plus juste, la plus agréable à Dieu des prières. Et essayons de laisser cette prière, voilà, brûler en nous, habiter nos cœurs. Voilà, le Notre Père, c'est tout entier donc une prière de demande. Hein, de demande, donc c'est une prière en fait de confiance et d'espérance. Voilà, il faut vraiment oser demander à Dieu son nom, la sanctification du nom, la venue de son règne, l'accomplissement de sa volonté. C'est-à-dire vraiment les accepter pleinement. Les demander, c'est les accepter aussi pour nous. Et désirer qu'elles se réalisent, voilà, en nous et autour de nous. Et donc, c'est toujours un engagement de prier de notre Père. Voilà, parce que ben, il faut pleinement, si je demande que ta volonté soit faite, que j'accepte vraiment la volonté de Dieu, que je désire que son règne vienne et que je sanctifie son nom. Et puis, la deuxième partie de notre Père nous dit ce que ça signifie plus concrètement pour nous. Donc, nous nourrir du pain de la vie, nourrir du pain de la parole, vivre dans le pardon, voilà, se sentir pardonné par Dieu, être capable de pardonner, et puis accueillir la force de Dieu pour nous libérer du mal. Voilà, donc si nous prions vraiment le Notre Père avec foi, avec conviction, avec attention, voilà, avec espérance, hein, il n'est pas possible que Dieu n'agisse pas en nous, je pense, hein, parce que quiconque demande reçoit, dit Jésus dans l'Évangile. Donc quiconque demande reçoit, donc n'hésitons pas à demander et Dieu nous donnera l'Esprit Saint. Dieu nous donnera la force, Dieu nous donnera, voilà, d'accueillir ce qu'il veut pour nous. Amen.